Je me souviens.
Je me rappelle. Tu te souviens ?
Elle se rappelle.
Elle se souvient.
Il se rappelle.
Ça a été comme une lumière dans la nuit, un flash. Nous avons tous vécu un événement marquant qui a été un accélérateur de vie.
Je me souviens, je me rappelle.
Amis auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Avec moi aujourd'hui, Bernadette. Bernadette, bonjour.
Bonjour.
Bernadette, on vous connaît bien à la Ligue des droits de l'homme de l'Ain, où vous êtes en charge de la commission juridique, ce qui apparaît comme une suite logique à votre carrière qui s'est faite entre les murs du palais de justice de Bourg-en-Bresse en tant que greffière. C'est une activité qui a suivi toute votre vie. Bernadette, ça a commencé quand pour vous ?
Voilà, ça a commencé en 1972 et j'ai fait 42 ans dans des services judiciaires en tant que greffière.
En 1972, vous aviez ?
J'avais 22 ans, voilà.
Donc plus qu'une carrière, on peut dire qu'il s'agit d'une vie, Bernadette.
Voilà, et ben oui, c'est une vie qui a été jalonnée, que ce soit dans les différentes juridictions, civiles, pénales, prud'homales, voilà, de toute ma carrière.
Alors, greffière, c'est une profession qui est méconnue. Est-ce que vous pourriez m'en dire un mot ?
Alors, être greffier, c'est être garant de la procédure, c'est la préparation des dossiers, c'est la préparation des audiences, c'est le suivi des décisions juridictionnelles, c'est-à-dire que c'est le greffe qui fait toute la paperasse derrière des décisions, que ce soit civiles ou pénales, et garant de la procédure et la vigilance sur... Que dans les interrogatoires, tout soit pris
en compte, ouais.
Tout soit pris en compte et surtout avec
vocabulaire et précision.
De manière à ne tronquer aucun mot de ce qu'on peut transcrire lors d'audience ou lors d'interrogatoire.
Alors, vos journées, elles s'écoulent donc entre les interrogatoires et les audiences et elles s'écoulent dans une relation peut-être avec le juge d'instruction.
Alors, tout à fait. Si on peut parler, parce qu'il y a d'autres services que le juge d'instruction, mais puisque c'est un peu l'objectif de l'émission d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut une coordination, il faut un respect des fonctions de l'un et de l'autre, de manière à ce qu'on puisse être une équipe et de manière à ce qu'on puisse travailler dans plus de rapidité quand le travail est bien préparé et que... Voilà, qu'on peut faire tranquillement et sereinement notre fonction.
Donc c'est une relation qui doit être une relation forte entre le juge d'instruction et vous. Entre le juge d'instruction et vous, les jours d'interrogatoire, il y a le prévenu.
Alors les jours d'interrogatoire, les interrogatoires, c'est soit des interrogatoires, soit des confrontations. Hein. C'est surtout les grosses spécificités de l'instruction. Et tout ça donc est pris directement sous la dictée. Donc le prévenu ou les témoins ou les victimes s'expriment. Le juge reformule pour que ce soit bien transcrit dans l'idée, sachant que sous l'émotion, ces personnes-là ne sont pas toujours très
claires.
Très claires, puisque les mots se bousculent un peu dans leur tête pour pouvoir s'exprimer. Et c'est sous la dictée qu'il faut prendre tout l'interrogatoire. Les difficultés, c'est quand c'est des mots techniques, que ce soit dans des orientations industrielles, financières et compagnie. En me plaçant à l'époque, bien sûr, maintenant ça a changé. Il faut vraiment être fidèle et mettre le bon vocabulaire, le bon orthographe, pour pas qu'il y ait de difficultés avec...
Donc un travail de précision et en même temps donc de précision, et qui requiert des connaissances un peu dans tous les domaines. Également un travail où il faut se débarrasser du contexte émotionnel pour arriver à dépeindre de façon exacte tout ce qui se passe.
Tout à fait, parce que devant nous, dans les tribunaux, on est confronté à la souffrance... À la violence. Et ça, il faut y travailler personnellement, de manière à ce qu'on puisse faire notre travail dans la plus grande sérénité et ne pas partir avec l'émotionnel des personnes qui sont devant nous.
Vous avez 25 ans, Bernadette. C'est une journée ordinaire. Il est midi. Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, il est midi. On vient de finir un interrogatoire. On était en train de ranger nos affaires pour aller déjeuner. Ça frappe à la porte et la porte s'ouvre tout doucement. Dans la configuration, mon juge était en face de cette porte et moi légèrement mon bureau décalé sur la partie gauche, donc je ne voyais pas qui avait frappé puisque ça n'entrait pas tout de suite. Donc le juge présent pose des questions, dit « Monsieur, entrez, monsieur, qu'est-ce que vous voulez ?» Ça n'entrait pas tout de suite. Et qu'est-ce que je vois apparaître ? Un carton qui rentre tout doucement. Alors je me suis dit, ben, c'est un livreur qui cherche un bureau pour livrer quelque chose, quoi. Et ça rentrait pas tout de suite. Et le juge dit, mais monsieur, mais rentrez, qu'est-ce que vous voulez ? Vous livrez quelque chose ? Vous avez besoin d'un renseignement ? Et finalement, il rentre dans le bureau avec un regard exorbitant. Je l'avais connu, cette personne, étant donné que j'avais suivi des interrogatoires avec un autre juge. Et donc, il rentre avec son carton, qu'il tenait comme une arme, hein, avec une languette détachée en dessous. Et il nous vise tous les deux en nous disant « Où est monsieur le juge X ? Je suis venu le tuer. » Alors, l'émotion sur le coup, il paraît que je me suis mise à rire, mais il n'y avait rien de drôle. Donc, premier réflexe que j'aurais jamais imaginé, c'est de me mettre à rire en face d'une présumée arme. Hein. Et donc...
Donc, sidération ?
Bah, sidération. Alors, le juge commence à lui dire, mais pourquoi que vous voulez tuer le juge X ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, mon affaire n'est pas sortie, donc il y a eu un non-lieu, c'est inadmissible, trouvez-le-moi. Il dit, mais il est parti en mutation.
Ce qui était le cas.
Ce qui était le cas. Il est parti en mutation et il n'est pas ici. Alors, ce qui était pour la configuration, c'est-à-dire que le juge qui était parti était doyen des juges d'instruction, donc dont les fonctions permettent, par exemple, de prendre des constitutions de partie civile. Comme il était parti, c'était notre cabinet qui devenait doyen des juges d'instruction et on avait pris le bureau parce qu'il était plus vaste que l'autre.
Donc c'était le bureau auquel il s'attendait.
Voilà. Donc c'est là qu'il avait eu ses interrogatoires, lui. Donc il était venu dans ce bureau parce que persuadé qu'il allait trouver le juge.
Alors qu'est-ce qui se passe ? Comment ça s'enchaîne ?
Alors le juge présent... Qui parlait beaucoup et il avait fait des formations, sachant que des gens comme ça, qui étaient sous un émotionnel maximum, il fallait beaucoup parler. Donc, il a beaucoup discuté, mais c'est quoi votre affaire ? Et puis, racontez-moi. Et puis,
il l'a fait parler.
Ouais. Et il l'a fait parler. Et il dit, oui, un commandant de gendarmerie m'a falsifié des chèques. Et ça s'est terminé par un non-lieu. C'est pas normal. C'est bien lui qui a fait tous les chèques. Enfin, bref.
Quelque chose d'un peu abracadabrant, peut-on dire ?
Bah, sur le moment, on n'avait pas à juger si son dossier était abracadabrant ou pas. Nous, on ne le connaissait pas, hein, ou tout du moins, le juge ne le connaissait pas. Sachant que son collègue juge d'instruction avait fait un non-lieu, sachant le sérieux que ce juge portait sur ses dossiers, c'est qu'il avait pas, s'il y avait eu un non-lieu, que le parquet avait aussi ordonné le non-lieu... il n'y avait pas matière à poursuivre cette affaire.
Donc, alors, votre juge essaye de s'en sortir par le dialogue, par l'interrogation. Comment ça évolue ?
Alors, ça évolue qu'il voulait absolument me faire sortir. Et tout de suite, il n'en était pas question. Donc, je vous garderai en otage tant qu'on ne m'aura pas fait sortir mon dossier.
Ça évolue comme une prise d'otage.
Oui, ça évolue comme une prise d'otage, étant donné que le juge qu'il était venu tuer n'était pas là, et puis qu'il a encore eu espoir qu'en nous prenant en otage, son dossier allait être réouvert, et que, voilà, dans sa tête, ça devait être ça.
Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, au bout de... Le temps, dans ces cas-là, prend une ampleur qu'on n'est plus dans le même...
le temps est suspendu.
Le temps est suspendu. Il me semble que c'est au bout de trois quarts d'heure quand même que, tout en mettant son arme, soit l'un, soit l'autre, les mains en l'air, bien sûr. Hein. Donc, il m'autorise à sortir en me disant que, avec interdiction, d'aller prévenir qui que ce soit. Donc,
Il vous autorise à sortir et il vous dit vous n'avez le droit de rien dire à personne.
Ah ben, il faut les prévenir, personne.
Ouais. Comment vous êtes à ce moment-là?
Ah ben, je suis un peu groggy, hein, n'importe comment. Et puis, ben, que faire? Que faire? Alors, je suis parti en ville. Je sais que j'ai marché dans les rues, me disant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais au commissariat pour qu'il y ait X victimes? Si vraiment, dans ce carton, il y a une arme, hein, parce qu'on ne savait encore pas ce qu'il y avait dans ce carton. Ou est-ce que je ne préviens pas et que je retrouve mon juge inanimé en venant? Alors, je ne sais pas.
Et puis, vous avez 25 ans, vous êtes jeune.
J'ai 25 ans, et l'inconscience de cette époque-là, avec bon, la jeunesse, et puis on n'avait pas imbibé que, voilà, qu'on pouvait être confronté à tout ça. Et donc, je ne sais pas combien de temps j'ai marché.
Avec ce dilemme.
Avec ce dilemme. Mais je me rappelle que mon obsession a été, qu'est-ce qui va arriver à mon juge? Donc, je suis retourné sur les lieux. Je n'ai pas du tout pensé à moi. J'aurais pu arriver en face de l'arme et puis pu être là aujourd'hui. Et mon obsession a été, ben, qu'est-ce que devient mon juge? Voilà. Peut-être parce que c'est lui qui m'avait fait sortir, je ne sais pas, je ne sais plus pour quelle raison, ça a été mon obsession à ce moment-là. Et lorsque je suis revenu, bon, ben, le juge avait pu aller voir le procureur de la République, qui avait pu, par des signes ou par des... parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les systèmes technologiques d'aujourd'hui, hein, donc il avait pu quand même appeler le commissariat, et mon juge était revenu dans son bureau.
Il avait pu sortir du bureau malgré le forcené.
Voilà, mais il était allé chez le procureur avec le carton dans le dos et les mains en l'air. Hein, donc, et le procureur qui a aussi discuté un peu, voilà. Et donc le juge dit, bon ben, on va retourner dans mon bureau et puis on va voir si on peut retrouver ce dossier, hein, pour essayer de le ramener dans le bureau. Et il l'avait placé contre une porte de vitre dépolie. Et quand le juge a vu les chemises bleues des policiers qui arrivaient, par la vitre, il lui a plongé dans les jambes. Donc, la personne, avec son carton, lui est tombée dessus. Les policiers ont donc enfoncé la porte et ils l'ont maîtrisée comme ça sur le sol. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là.
Donc les choses s'étaient dénouées. Ça aurait pu se passer autrement.
Ah voilà, les choses s'étaient dénouées, même s'il y avait quelques taches de sang. Tout le monde... Personne n'avait de blessures importantes. C'était un ouf de soulagement, qui me, qui aujourd'hui encore me fait ressortir cette émotion du moment. Et donc, bien sûr, ils ont tout de suite enlevé ce carton pour voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et il y avait un fusil à canon et crosse scié avec deux cartouches. Donc,
un réel danger.
Un réel danger, et même moi, je me suis dit après, même en rigolant, pourquoi je me suis mis à rire, il aurait pu prendre ça pour. Et puis que me tirer dessus, ou une maladresse. Hein.
Alors, Bernadette, beaucoup d'années ont passé. Je suppose que cette expérience vous a amené quelques enseignements.
Oui, l'enseignement surtout que quand on voit des faits divers, de prises d'otages, où on a tendance à donner des avis, bon, ben pourquoi que ça se passe comme ça, et puis pourquoi qu'ils n'ont pas pu faire ci ou ça. Et quand on est dans l'action, on se rend bien compte que le discernement est complètement altéré, et que l'émotionnel prenant le dessus, la peur, et qu'on n'a plus du tout de même repère. Et que je me pose encore la question aujourd'hui, pourquoi que mon réflexe a été de revenir sur les lieux, sachant que je n'ai pas pensé une seconde qu'il pourrait m'arriver quelque chose à moi, quoi.
Alors, qu'est-ce que ça a changé en vous?
Ben, le regard un peu sur... après, il y a eu beaucoup de cas où on se pose des questions quand on a devant nous la souffrance, la violence... La peur, les victimes qui ont du mal à s'exprimer sur le côté émotionnel et tout ça, par un travail aussi individuel, hein, qu'on nous dispense aussi dans nos fonctions, c'est d'avoir la sérénité correspondante et ne pas s'apitoyer en même temps que les personnes, parce que ça ne sert à rien, et de trouver donc
cette distance alors.
Trouver la distance, trouver un équilibre entre pouvoir s'occuper de la personne, enfin s'occuper entre guillemets, voilà, de manière à ce qu'on puisse arriver à un raisonnement commun qui permette d'atténuer un peu les.
La compréhension des situations sans jugement et mettre de la distance.
Voilà. Et que ce qu'on peut, si je peux réitérer, ce qu'on peut porter comme jugement quand on est en face de faits divers dans les médias ou même localement, est complètement opposé quand nous, on vit des situations comme ça et qu'on devient des victimes. On devient des victimes dans ce cas de figure, alors qu'on est censé quand même... s'occuper de victimes, donc ça nous fait voir un peu les deux faces des choses, c'est-à-dire que quand on entend des victimes, le niveau de souffrance, le niveau émotionnel, et quand on le devient nous, est-ce qu'on est capable de gérer cette...
Avoir été des deux côtés de la barrière.
Voilà.
Je vous remercie beaucoup Bernadette pour ce témoignage très marquant, et amis auditeurs, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Amis auditeurs, si vous avez un souvenir marquant que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à nous le faire savoir en contactant Radio B. À bientôt.